grotesque. Vous, plusieurs d'entre vous, sans doute, connaissent très bien la situation des journalistes dans certains pays, de tout le monde en particulier, où vraiment le travail de journaliste peut facilement venir au fond d'un ravin sans autre forme de discussion. Robert Ménard a pris Cuba pour cible. Pourquoi? C'est la question qu'on s'est posée. Et on a trouvé un paquet de plusieurs réponses qui nous amènent à croire que Robert Ménard travaille pour la CIA, que Robert Ménard, s'il ne travaille pas pour la CIA, ou il est imbécile, il n'en est pas conscient, ou il travaille pour d'autres organismes de l'administration américaine. Mais tout dans son profil vient démontrer que Robert Ménard est un agent des États-Unis. On me demande parfois, on nous a demandé parfois si nous avions des preuves concrète de l'appartenance de Robert Ménard à la CIA. Ce qu'on a trouvé comme meilleure, comme réponse, c'est que lorsque l'on voit dans un champ quelque chose qui est blanc avec des taches noires, qui mange de l'herbe, qui fait mieux et qui donne du lait, on n'a pas besoin de consulter un vétérinaire pour se rendre compte qu'il s'agit de nuages. Et dans le cas de Robert Ménard, les taches noires sont extrêmement nombreuses. Beaucoup de choses dans son comportement viennent démontrer que caractérise son rôle d'agent des services spéciaux américains. Un des éléments particulièrement nouveaux qu'il y a dans ce bouquin, c'est une entrevue avec Nestor Baguer. Nestor Baguer, qui est un vieux journaliste de la Havane, de la presse cubaine, qui, il y a quelques années, à la demande des services de sécurité cubains, s'est converti en dissident. Avec un tel succès qu'il est devenu président de l'Association des journalistes indépendants. On reviendra sur ce que sont les journalistes indépendants plus tard, après quelques mois, et que Robert Ménard, constatant qu'il s'agissait là d'un personnage qui pouvait ajouter à son écurie, l'a contacté à La Havane, d'abord par téléphone, puis est apparu à La Havane, l'a contacté chez lui, et lui a demandé une rencontre. Robert Ménard lui a donné rendez-vous dans la maison d'un ex-détenu avec lequel il était en contact, Dieu sait pour quelle raison. Lorsque Nestor Baguer se présente chez la personne en question, Ménard lui dit « on ne parle pas ici, on peut pas, on va parler dans l'automobile ». Alors Robert Ménard, qui ne connaît à peu près pas Cuba, bon, c'était le premier et dernier, et dont ce fut le dernier séjour à Cuba, habitait l'hôtel national, 5 étoiles, meilleur hôtel peut-être de la zone où il se trouve, avait une bagnole à la porte que conduisait son aide, son chargé d'affaires pour l'Amérique latine, Régis Borja. Alors les deux descendent dans l'auto, s'installent sur le siège arrière pendant que Régis Borja conduit pendant 2 heures l'auto à travers le quartier du Vedado, le quartier central du Vedado à La Havane. Ménard lui explique comment fonctionne son organisation, lui dit qu'il a de puissants moyens financiers, que de grosses corporations françaises le soutiennent, ce qui est absolument vrai, et lui propose de travailler pour lui. Il lui raconte qu'il lui faut du matériel, de l'information sur Cuba, de préférence défavorable. Il lui explique qu'il a un réseau de diffusion de cette information et qu'il est en mesure de le payer. Il est également en mesure de lui donner, ces jours-là, un ordinateur portable neuf, un laptop neuf. Le même soir, la tournée se termine. On débarque Baguer quelque part sur la rue, et le même soir, on lui téléphone chez lui pour lui dire qu'on doit lui remettre l'ordinateur. Mais on lui dit, tu dois te présenter au parc Victor Hugo, t'asseoir sur un banc et attendre. Cette nuit-là, Baguer se présente dans le parc, s'assoit sur un banc et attend. La voiture de Ménard arrive avec Régis Borja au volant, cette fois seul, qui débarque. Lui donne l'ordinateur dans sa boîte d'origine et fout le camp à l'instant même, sans avoir avec lui d'autres conversations. Alors, dans l'entrevue, on demande Évidemment, la guerre, il s'agit là d'un comportement normal pour un journaliste à Cuba pour consulter quelqu'un, converser avec quelqu'un. On n'a pas besoin de s'enfermer dans une bagnole avec chauffeur, rouler pendant 2 heures au milieu de la ville pour arriver à établir une conversation. À Cuba, pour donner un paquet, un ordinateur à quelqu'un, on n'a pas besoin de se cacher la nuit dans les parcs. Évidemment, Nestor Bagaire conclut qu'il s'agit là de caractéristiques d'un agent de renseignement, non et non des caractéristiques d'un journaliste. Robert Ménard a de nombreuses caractéristiques du même type. Il souffre notamment d'une sorte de schizophrénie, d'une sorte de dédoublement de la personnalité. Il était à Paris la semaine dernière, il a convoqué, place de l'Hôtel de Ville, une manifestation pour dénoncer des terroristes à Paris, à Bagdad, qui détiennent 2 journalistes et leur chauffeur. Il oubliait notamment, au moment où il faisait des déclarations, place de l'Hôtel de Ville, il oubliait notamment le chauffeur, et des personnes lui ont rappelé qu'il n'y avait pas que les 2 journalistes, il y avait également le chauffeur. Ménard dénonçait les terroristes de Bagdad dans des termes fort, très durs, dénonçait leur activité là-bas, dénonçait ces prises d'otages. Cependant, Robert Ménard, à Miami, est le copain et le pote de toute une immense collection de terroristes, de gens qui, au fil des 45 dernières années, ont soutenu le terrorisme contre Cuba, l'ont soutenu, l'ont financé, l'ont organisé et l'ont réalisé. Robert Ménard, en février dernier, pour la première fois, débarquait publiquement à Miami pour rencontrer ces gens-là. Il a été reçu au restaurant de Versailles, de Hialeah, qui est un des quartiers de Miami, le Versailles où se réunissent depuis toujours les anti-castristes, entre guillemets, les plus durs, les plus irréductibles, ceux qui dominent précisément cette ville-là, cette ville mafieuse, ceux qui mènent tout, non seulement les activités terroristes, mais souvent des activités reliées au trafic de narcotiques, et les activités politiques, tout ce qui touche, tout ce qui permet de vivre grassement grâce à des procédés de corruption. Ménard a été reçu par ces gens-là, il a été traité en héros, il a été invité dans les stations de radio, interrogé par la presse. Il a connu des gens comme Armando Pérez Aura, le patron de Radio Mambi, la radio qui lance constamment des appels au terrorisme contre Cuba, la radio qui a organisé des campagnes de financement pour des groupes qui se livrent au terrorisme, la radio qui a mené les campagnes de soutien à Orlando Bosch, le terroriste le plus dangereux de l'hémisphère selon le FBI lui-même, la radio qui a également organisé les campagnes récentes pour la libération, depuis le 2000, pour la libération de Luis Posada Carriles, coupable, responsable avec Orlando Bosch de l'explosion d'un avion en 1976 qui a fait 73 morts dans le ciel de la Barbade, un avion de Cubana d'aviation. Ce sont ces gens-là qui accueillaient Ménard et Miami. Ces rencontres là-bas ont été multiples, autant avec le Cuban Liberty Council, les dirigeants de groupes qui non seulement soutiennent et organisent le terrorisme, mais également avec des universitaires anti-cubains du groupe groupes qui émettent constamment des études, de prétendues études sur Cuba extrêmement hostiles à la révolution cubaine. Ménard a également rencontré les gens d'un groupe d'études soutenu par Bacardi, les gens de Bacardi à Miami. Il est enfin, Ménard s'est carrément identifié à tout ce qui bouge de l'extrême droite de Miami, d'une extrême droite qui est bien à droite d'un Le Pen en France. Cependant, quand il rentre à Paris, ensuite, personne à Paris dans les médias ne commente ce que fait Ménard à Miami. À Paris, on ignore totalement l'autre identité de Ménard, collaborateur de la mafia cubano-américaine. À Paris, Ménard joue les libéraux, joue les progressistes, s'associe à réunir nombre de vedettes de cinéma, de personnalités parisiennes pour les brancher sur ses campagnes contre Cuba. À Paris, Ménard est un tout autre homme, défenseur des droits de l'homme, défenseur des droits du journaliste, de la liberté de la presse, alors qu'à Miami, il est associé avec des gens pour qui Le Pen serait un dangereux gauchiste. C'est les deux personnalités de Robert Ménard qui ressortent dans ce bouquin. Faut le faire. Cette double personnalité qui est notamment soulignée dans le bouquin, et également son association avec les plus grosses fortunes, avec certaines des plus grosses fortunes de France et certaines grosses fortunes du monde des communications. C'est quand même pas mal pour quelqu'un qui prêche la liberté de la presse de coucher avec les multimillionnaires qui dirigent, qui contrôlent, qui dominent le monde des communications en France. Et notamment le monde de la publicité. Il faut savoir que le site Internet, et c'est même pas un secret, c'est annoncé sur le site Internet de Ménard, son site Internet est conçu par Saatchi & Saatchi, une des plus grosses agences de publicité de New York, qui est normalement le concepteur des grandes campagnes de publicité de plusieurs des grands noms, des plus grandes corporations américaines, de compagnies d'automobiles, de McDonald's, de Coca-Cola, de compagnies énormes, et Saatchi & Saatchi n'a pas la réputation de s'amuser à monter des sites Internet, à les entretenir, à les promotionner. Il n'a pas la réputation de monter des sites Internet d'ONG qui, théoriquement, vivent de la vente de leurs cartes postales, de cartes postales à 1 euro ou d'albums photos à 30. Saatchi & Saatchi est la propriété de Publicis, la plus grande agence de publicité française, la troisième plus grande agence de publicité au monde. Robert Ménard reçoit un appui ferme de cette entreprise, cette corporation mondiale qui est dirigée par Jean Lévy. Jean Lévy et Publicis sont les auteurs de campagnes, de publicité, de recrutement du Mossad israélien. Jean Lévy et Publicis sont les auteurs de campagnes de publicité pour faire une image, créer une image médiatique au fameux mur que l'on construit en Palestine. Publicis est également le publicitaire, le concepteur des campagnes de pub de l'armée, a des contrats avec l'armée américaine, notamment pour le recrutement de militaires dans la communauté hispanophone des États-Unis. Publicis, enfin, est également, j'en oublie un, est également consultant pour Bacardi. Qui on le sait, a été associé à des campagnes de terrorisme menées contre Cuba dans les premières années de la Révolution. Il y a une photo intéressante dans ce bouquin, notamment, qui est très facile à trouver, qu'on n'a pas inventé, qui se trouve sur Internet, sur le site de César Alarcon, un activiste anticastriste très connu aux États-Unis, qui vit à Baltimore et qui n'hésite pas à publier sur son site des photos où il est accompagné de Otto Reich, de Madeleine Albright et de toute une collection de personnages plus réactionnaires les uns que les autres, et notamment certains qui sont identifiés au service de renseignement américain depuis de longues années. Il y a une photo que je trouve, c'est deux photos en fait qui sont particulièrement intéressantes. On voit ici en haut Régis Borgia, le bras droit de Robert Ménard, secrétaire perpétuel de Reporters sans frontières. Il semble que Robert Ménard se soit nommé secrétaire à vie de l'organisation qu'il a lui-même créée et dans laquelle on le décrit comme un personnage absolument autoritaire qui ne tolère aucune critique. Il l'a même dit lui-même en entrevue. Alors, Borgia se trouve avec César Alarcon, qui est très identifié aux États-Unis comme étant un collaborateur des services de renseignement américains. Et sur la photo du bas, on voit Alarcon à côté de Liliana Ross-Lehtinen, une congressiste cubano-américaine, et deux autres congressistes, Lincoln Diaz-Balart et Mario Diaz-Balart. Mario Diaz-Balart et Lincoln Diaz-Balart sont les fils de Rafael Diaz-Balart. Rafael Diaz-Balart qui a créé le premier groupe terroriste anti-cubain de l'histoire des 45 dernières années. Raphaël Diaz-Balart était tellement en avance sur son époque, il est toujours vivant, vit toujours à Miami, et tellement en avance sur son époque que lorsque Fulgencio Batista, le gouvernement de Fulgencio Batista à Cuba commence à chanceler, Raphaël Diaz-Balart part pour l'Europe, en voyage d'affaires, le seul qu'il ait jamais effectué en Europe de toute sa vie. Il disparaît en Europe, le régime s'écroule, il réapparaît à New York en janvier 59. Fin janvier 59, dans la dernière semaine de janvier 59, il fonde à New York le premier groupe terroriste anti-cubain de l'histoire de la contre-révolution, la Rosa Blanca, qui a participé à toute une série d'activités terroristes, d'attaques terroristes en territoire cubain dans les années suivantes et qui a été réellement l'initiateur de l'activité terroriste comme moyen de combattre la révolution cubaine. Alors, quand on se trouve avec ces personnages-là, et qui est le personnage qui est à côté, à gauche sur la photo, juste collé sur lui, qui semble le tenir par l'épaule ou quelque chose du genre? C'est quand même intéressant. Il s'agit de Porter Goss, le nouveau chef de la CIA, nommé il y a à peine quelques semaines par George Bush. Alors, Régis Borgia et César Alarcón sur une photo. L'autre photo, César Alarcón et Porter Goss. C'est, évidemment, c'est pas la preuve indiscutable des liens de Reporters sans frontières avec la CIA, mais quand même, ça pose quand même un certain doute. Il y a tellement d'éléments liés aux campagnes, liant les campagnes de Robert Ménard contre Cuba et les services de renseignement américains que ce livre en est rempli. Dans la dernière perle en matière de liens est sans doute la publication, il y a quelques semaines à peine, en mai aux États-Unis, du plan de transition de l'administration américaine pour Cuba. Le plan de transition qui permettrait, au moment d'un éventuel, d'une éventuelle disparition du chef de l'État cubain, de passer à l'offensive de réaliser enfin les vieux projets d'annexion que les États-Unis nourrissent depuis au-delà d'un siècle au sujet de l'île de Cuba.